Bonjour Véronique, merci d'être avec nous sur les ondes de SBS en français et merci de nous parler de votre expérience extrêmement personnelle.
Merci de m'inviter.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il vous est arrivé ?
J'ai été victime de violences sexuelles depuis que j'avais à peu près 5 ans, jusqu'à mes 16 à 17 ans. Cette violence était presque quotidienne et infligée par un demi-frère qui était aussi le premier-né de la famille. Ces violences ont commencé dans mon pays natal, où j'étais née alors à l'île Maurice, et ont perduré pendant ma vie ici en Australie, quand j'étais toute jeune aussi.
Et vous avez décidé de porter plainte, de mettre cette affaire devant la justice, à quel moment ?
Quand j'ai appris en fait que mon demi-frère vivait avec une femme qui avait deux jeunes enfants, et c'était pour moi vital que j'en parle parce que c'était je voulais pas porter le poids, la responsabilité de potentiellement d'un abus sur ses enfants sur ma conscience.
Donc c'est un demi-frère du côté de votre mère. Comment est-ce que votre famille a réagi ?
Alors dans mon cas, je venais d'une famille recomposée et assez instable. Il y avait beaucoup d'enfants, il y avait sept enfants en tout, avec des parents souvent trop préoccupés par des tensions entre eux, en fait, pour s'occuper vraiment des enfants. Par contre, ma mère, elle a toujours su à propos de ces violences que je subissais, et je lui ai dit moi-même quand j'étais toute petite et quand j'étais une jeune adulte, en fait. Mais elle n'a rien fait pour me protéger. Au contraire, elle m'a blâmée et même essayé de convaincre souvent avec du succès que je mentais, ou pire même que j'étais une petite fille sexuellement précoce.
Pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer ce comportement ?
Alors oui, je dirais justement en parlant de l'environnement social, en fait c'est le côté culturel à penser à l'époque de Maurice, mais je pense que c'est pas que l'île Maurice, hein, c'est un peu partout, que ce soit en France, en Australie ou à Maurice, il y a ce stigma qui est attaché à la sexualité de la femme et la sexualité de l'homme. L'homme est supposé aller, je ne sais pas si c'est une très bonne expression française, mais semer ses graines, et la femme, elle doit rester pudique, pure. C'est une sorte de stigma, j'imagine, des sortes de stigmas sociaux qui sont très archaïques, qui cherchent toujours un peu à blâmer la victime et à la diminuer et l'humilier, en fait.
Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2018, c'est la journée internationale des femmes. Et malgré une expérience douloureuse qu'en général on pourrait préférer taire, vous avez décidé d'élever votre voix. Pourquoi ?
Parce que ma voix me libère. Voilà, c'est parce que le silence, je pense, rend puissant les agresseurs et tous ceux qui les soutiennent. Aussi longtemps que j'étais silencieuse, en fait, j'étais en quelque sorte une sorte de victime, je pense, parce que je portais ce poids et je me sentais pas écouter, et je portais des doutes en moi que je n'avais pas apporté, en fait.
Le 27 février, vous avez été invitée sur le plateau de l'émission SBS Insight en Australie pour parler de la difficulté d'être entraînée dans le système judiciaire. La première chose que vous évoquez d'ailleurs, c'est cette difficulté d'être confrontée au contre-interrogatoire ou cross-examination en anglais. Pourquoi ?
Cette difficulté-là, déjà, c'est le problème du système en lui-même. Alors, le processus des contre-interrogatoires, le processus est pénible et souvent une source de traumatisme. Le but des contre-interrogations est de semer le doute dans les pensées des jurés, en fait. La façon dont ça se déroule, c'est de semer le doute non seulement sur les accusations que porte la plaignante, mais aussi sur son caractère. Alors, en quelque sorte, je subissais un peu les mêmes trahisons et attaques que je subissais quand j'étais petite et que je parlais à ma mère, et que, voilà, il y avait cette attaque sur mon caractère. Il n'y avait aucune protection, en fait, pour moi, en tout cas. On ramenait des histoires du passé qui n'avaient rien à voir avec des abus que j'avais subis, des histoires de tensions entre mes sœurs et moi, des dettes que j'ai pu avoir, tout dans le but d'attaquer ma crédibilité, en fait. Mais je dois aussi ajouter que ce n'est pas juste les contre-interrogatoires qui étaient douloureux. Le procès entier était difficile, pour des raisons qui se comprennent en partie, mais aussi parce que le système n'est pas construit pour soutenir la victime. Le système judiciaire est penché sur les droits des accusés, en fait. Et je trouve qu'avoir participé à ce show, c'était dans le but de dire que ce système doit changer.
Les temps entre les procès sont aussi très longs. Votre demi-frère a été jugé une première fois, mais il a fait appel. Son second procès s'est déroulé un an plus tard. Et entre-temps, il était libre. D'ailleurs, qu'avez-vous ressenti de le savoir libre ?
Oh là là, alors là, c'est un mélange de choses. Une trahison déjà par le système, parce que bien que c'était pas de sa faute, il a été relâché pour cause des conseils qui ont été donnés par le juge aux jurés. Ça n'avait rien à voir avec mon témoignage ou les preuves, en quelque sorte. Alors, il y avait déjà cette trahison, il y avait une colère envers le système, déjà pour avoir me mettre encore une fois dans le processus, et aussi une colère, bien sûr, envers mon demi-frère, qui savait qu'il était coupable, mais qui en profitait de cette situation, et envers la famille, qui savait aussi et continuait à le soutenir dans ce processus afin de prolonger cette souffrance et cette injustice.
Comment est-ce qu'il a réagi la première fois que vous avez porté plainte?
Sa réaction directe, je ne la connais pas, je la connais pas directement, mais je sais aussi que par la réaction de la famille, que ça a été de nier tout ce qui s'était passé et d'agresser mon caractère socialement.
À partir du moment où la police a ouvert un dossier jusqu'à sa condamnation finale, 5 ans et 6 mois se sont écoulés. Il a été condamné à 4 ans et 5 mois avec une peine de sûreté de 3 ans. Il sortira bientôt. Est-ce que vous pensez que c'est dangereux de le laisser en liberté? Est-ce que vous êtes satisfaite du jugement?
Oh, satisfaite. Alors, oui et non. Alors, je vais couvrir le oui parce que c'est bien plus rapide. Je dois dire que j'ai de la chance parce que les chiffres indiquent que seulement 12% des procès finissent en condamnation. Alors, je dois reconnaître que j'ai de la chance d'avoir fini un processus qui a prouvé que je ne mentais pas et qu'il était coupable. Alors, dans ce contexte-là, bien sûr que je suis contente qu'il a été trouvé coupable et qu'il est en prison. Mais bon, ça a duré 5 ans et 6 mois de procès pour que j'y arrive à ce point. C'était au moins 11 ans d'abus. Et lui, il a 4 ans et 5 mois, dont seulement 3 ans de sûreté. Ce qui veut dire que techniquement, il va sortir à la fin de cette année-ci. Pour quelqu'un qui n'avoue pas ses crimes et qui n'a pas avoué pendant les 5 ans, qui après 25 ans qu'il a eu de réfléchir à propos de ce qu'il a fait, a toujours refusé devant la police d'avouer, je pense qu'il y a toujours danger pour quelqu'un qui reconnaît pas ce qu'il a fait.
Des mouvements comme Time's Up et MeToo contre le harcèlement sexuel et les abus sexuels commencent à vraiment voir le jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui encourage, qui donne de l'espoir pour défendre les femmes ou les hommes aussi?
Je dis, il était grand temps. Alors, c'est vrai que le problème, parfois, on parle de la victime qui est silencieuse, en fait. Pourquoi ça a pris beaucoup de temps pour en parler? En fait, je pense que ça arrive que les gens n'en parlent pas, mais je pense plus souvent que tout, les gens en parlent. Alors, dans mon cas, par exemple, j'ai parlé depuis que j'étais toute petite. Alors, bien sûr, pas tout le temps, mais j'en parlais. J'ai essayé de parler à des gens qui avaient potentiellement le pouvoir d'arrêter ces abus, de me protéger ou me consoler. Et le problème, c'est que c'était pas entendu. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un système social, il y a un système culturel, mondial en fait, qui a toujours mal réagi envers les sujets de violence sexuelle. Et là, le processus de MeToo, je trouve que c'est génial, dans le sens que, en fait, ces voix ont tellement de pouvoir qu'on ne peut pas ne pas les écouter. Par contre, j'espère que ça va encourager d'autres personnes à comprendre que ce n'est pas une honte à porter, qu'ils ont été victimes de violences sexuelles. Ce n'est pas leur honte à porter, c'est la honte des personnes qui les ont agressées. Et que, en fait, on est plus puissant en se libérant de ce poids. On se libère de ça, on se définit plus de ça. Alors, c'est très important ce que fait le mouvement de MeToo. Mais le problème que j'ai, moi, en ce moment, c'est que après le MeToo, et pendant ce MeToo, il y a des gens, je sais, au moins, je peux parler de l'Australie, que le nombre de plaintes portées à la police a augmenté. Il y a énormément de gens qui portent plainte maintenant en Australie, ce qui est une très bonne chose. Et la police, bien que imparfaits, ont vraiment évolué par rapport à la façon dont ils reçoivent ces plaintes et la façon dont ils traitent les gens qui viennent porter plainte pour des actions pareilles, pour des expériences pareilles. Alors ça, je trouve ça mais vraiment très honorable de leur part. Par contre, dès que ça arrive à la police, c'est bien, mais dès que ça arrive au système judiciaire, c'est l'échec total. Parce que le nombre de plaintes, de condamnations et de procès est identique à ce que c'était il y a peut-être 5-6 ans. Alors ça n'a pas changé. Alors le système refuse de changer. Et ça, je pense que MeToo, j'espère que ça va aller au-delà de ça, à vouloir pousser à ce que le système représente cette société, représente ces voix qui sont en train de s'élever et de dire « ça m'est arrivé et il faut trouver justice ». Alors justice, mais aussi prévention, mais au moins là dans ce processus de justice. Et je pense que là, le système judiciaire nous trahit en quelque sorte et nous laisse tomber.
C'était un procès difficile. Si c'était à refaire, vous le referiez?
Oui. Oui, absolument, parce que ça m'a libérée. C'était la bonne chose à faire et que pour moi, en tout cas, c'était nécessaire. Et oui, ça a beaucoup puisé, mais je pense que ça m'a aidé à confronter justement tout, tout le, non seulement mon agresseur, mais aussi tout le système qui était mis en place pour que je sois victime et pour que cet abus et ces violences perdurent aussi longtemps que ça a perduré. Alors j'ai pu mettre fin à tout ça. Alors je me sens une autre personne depuis que j'ai fait ça. Je me sens en complet contrôle de ma vie. C'est mon histoire et je ne suis plus définie par ce qui est arrivé. Et je pense que maintenant, c'est leur chemin à faire face à leur trahison, à faire face à leur lâcheté. Et là, j'inclus là-dedans non seulement l'agresseur, mais aussi tous ceux qui l'ont soutenu et qui savaient ce qui se passait à l'époque. C'est maintenant leur croix à porter. Alors oui, je pense que oui, j'en suis même certaine que je le referai encore.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Ben, seulement que je souhaite m'adresser aux victimes de violences sexuelles, les femmes ou hommes, hein, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des femmes, mais les hommes aussi en subissent. Et je souhaite dire potentiellement que je connais cette souffrance et que je l'ai portée dans ma chair et que je souhaiterais dire que je souhaiterais qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Ils ne sont pas seuls. On a toujours, j'ai porté en moi ce sentiment que j'étais seule. Et pourtant, on entend tellement souvent des gens qui subissent ces sortes d'agressions. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Et surtout que la violence qu'ils ont subie ne leur définit pas, en fait, mais définit celui qui les a agressés. Et que le travail peut être dur, mais qu'il faut trouver moyen de trouver un chemin. Alors que ce soit s'ils veulent, ils n'ont pas besoin de passer par le système judiciaire s'ils ne le veulent pas, mais de trouver un moyen de pouvoir trouver sa voie et réclamer sa vie et de vivre une vie au-delà de cette histoire. Parce qu'aussi longtemps qu'ils vivent dans ce silence et aussi longtemps qu'ils vivent dans cette solitude, ils restent victimes. Et je souhaiterais leur dire qu'il y a des façons de s'en sortir. Il faut juste continuer. Voilà, ça me peine beaucoup parce que je connais cette souffrance. Je la connais beaucoup et je la connais. Je sais comment on peut la vivre en cachette et je sais que ce qui m'a aidé moi, comme les mouvements comme MeToo, c'était d'entendre des gens en parler. Et j'espère que je fais la place justement pour que quelqu'un d'autre vienne et puisse avoir le courage ou l'envie vraiment de pouvoir se libérer aussi.
Véronique, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous et avec nos auditeurs.
Merci de m'avoir écoutée.